France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
En 2023, la fameuse enquête Contexte des sexualités en France, conduite par l'INSERM et l'ANRS Maladies infectieuses émergentes, dont nous avons abondamment parlé, indiquait que près de 30% des femmes déclarent avoir déjà subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé en France. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, on s'intéresse aux traces que ces violences sexuelles laissent dans l'intimité, à la question de savoir comment elles bouleversent le rapport à l'autre et à la sexualité. Comment séparer cette intimité de la violence lorsqu'on en a subi? Comment neutraliser ces souvenirs plus ou moins précis, mais toujours traumatisants, qui sont associés au moment d'intimité et de sexualité? On le sait désormais, les agressions sexuelles laissent des traces profondes sur la santé mentale et physique. Elles ont pour conséquence des pathologies qui vont des troubles du sommeil à l'anxiété, en passant par la dépression et les addictions diverses. Mais elles provoquent aussi des douleurs corporelles et des maladies chroniques. Mais ce qu'elles font encore une fois à notre vie intime, amoureuse, au désir, on le dit moins. Comment déconnecter la violence du sexe? Quel chemin prendre? Comment se reconstruire? Tout de suite, voici deux femmes et un homme qui racontent la mémoire traumatique, les symptômes physiques en lien avec les agressions subies et comment la parole avec un ou une psy, un ou une partenaire, les a menés sur le chemin d'une intimité plus apaisée. Et c'est un reportage de Pauline Verdusier.
Je m'appelle Marie, j'ai 36 ans et je travaille pour une radio associative à Paris. En fait, j'ai été élevée par mon père. Ma mère était quelqu'un de très instable psychologiquement et elle a débordé d'une forme de violence physique et mentale, hein, les deux, à l'encontre de mon père et aussi de ses enfants. Ils ont divorcé, j'avais 5 ans. Et là, c'est mon père qui obtient notre garde et ma mère a globalement quasiment pas le droit de nous voir. Mais à un moment donné, il trouve du travail après une longue période de chômage qui l'empêche de continuer à s'occuper de nous. Donc mon frère va vivre chez un oncle et une tante et moi je vais vivre chez mon oncle et ma tante de Rouen. Le jour où je vis des violences sexuelles, je suis au collège, je suis en troisième. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est passé, c'est que mon oncle est entré dans ma chambre un soir parce que j'arrivais pas à dormir et que de ce qui devait être un temps pour me permettre de dormir, il s'est dit, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je crois que je comprendrai jamais. Mais en tout cas, il en a profité pour me violer. C'est la seule fois où cet acte-là se produit. Mais ensuite, pendant toutes les années où je vis encore à Rouen, chez mon oncle et ma tante, donc tout mon lycée, c'est un enfer, en fait, parce que il cherche tout le temps à être tactile avec moi alors que moi, je le repousse. Il entre dans la salle de bain alors que je suis en train de prendre ma douche sans me demander mon avis. Je dois hurler pour qu'il sorte. C'est que de la pression psychologique de sa part. Je me souviens très bien que le lendemain matin de cet événement avec mon oncle, je vais au collège, je fais ma journée comme d'habitude. Et le soir, j'en parle à ma tante. Et là, c'est la déflagration. Elle me dit « Est-ce que t'es sûre ?» Je m'en doutais, il fallait que ça arrive. Et elle me dit « T'as interdiction d'en parler à qui que ce soit. » Du coup, ça devient un énorme tabou. Et du coup, moi, j'en parle pas. Mais le truc, il est tellement enfoui, que j'arrivais à faire complètement abstraction. Il y a une personne qui a vécu ça, et puis il y a l'autre qui a une adolescence plutôt normal. J'ai un petit copain à la fin de la troisième, juste après le brevet. On s'écrit des lettres pendant l'été. Moi, j'ai des petits papillons dans le bas du ventre. En début de seconde, on continue de sortir ensemble. Bon, ça, c'est une histoire qui va durer, je sais pas, 6-9 mois. Mais c'est un peu ma première histoire d'amour. Et c'est ma première rencontre de la sexualité. Je rencontre mon partenaire actuel quand j'ai 20 ans à un festival de musique. Et au début, on va avoir une relation à distance. Et l'intimité, elle se passe très bien. Quand on se voit, il y a encore plus ce truc de « on se retrouve » vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ça se passe vraiment très très bien. Les choses commencent à remonter quand ma grand-mère décède. C'est la mère de ma tante, c'est la mère de mon père, c'est ma figure maternelle à moi. Il y a un truc qui se brise à ce moment-là parce que je m'étais toujours dit « je peux rien dire » parce que si ça sort, ça va dévaster ma grand-mère et ça va l'anéantir. Son départ fait ressurgir en fait toute la colère que j'avais complètement enfouie envers mon oncle et ma tante. Et mon copain ne comprend pas ce qui se passe. Et à un moment donné, je me souviens très bien, on est en train de boire un verre au comptoir d'un bar. Et je lui parle d'une conversation téléphonique que j'ai avec ma tante, où je lui dis « mais t'as bien de la chance que j'en ai pas parlé à tout le monde ». Il me dit « mais parler de quoi ?» Et là, je bute sur les mots, parler de, et puis j'arrive pas, et je lui dis de parler de ce que m'a fait mon oncle. Il me dit « mais il t'a fait quoi ?» Et là, ça sort. Et là, il me dit, déjà, il insulte de tous les noms d'oiseaux. Il me dit, j'ai envie de prendre une batte de baseball et d'aller le démonter. Enfin, c'est qui, lui? Enfin, pourquoi? Enfin, il sort de ses gonds. Et c'est la première fois que j'ai la réaction de quelqu'un qui est outré, me croit et a envie d'aller me défendre. Et moi, ça me fait du bien, en fait, parce que je me dis, je vais plus avoir à faire semblant. Mais après cette verbalisation de ce qui m'est arrivé, je vais commencer à avoir des premiers symptômes qui vont m'arriver. Ça va commencer avec des cystites à répétition, ce qui va être quand même assez compliqué parce qu'en fait, ces cystites-là, elles ont tendance à arriver après un rapport. Donc je vais me mettre à associer rapport sexuel égal pisser du sang et avoir l'impression d'uriner comme des lames de rasoir. Enfin, c'est vraiment très 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 douloureux. Et puis je vais me mettre à avoir des démangeaisons au niveau de la vulve, surtout nocturne, ça me crée des insomnies et je me blesse au sang. Je m'irrite complètement la zone de la vulve à force de me gratter. Ça a impacté notre sexualité avec mon copain parce que déjà lui il est quand même assez marqué par ce que je lui ai dit et il a pas envie de me traumatiser à nouveau. Donc en fait, il sait plus très bien comment faire au niveau des gestes, qu'il a peur de me refaire du mal. Et puis moi à ce moment-là, la sexualité, elle est associée à la douleur. Je consulte ma gynéco qui me fait tous les tests possibles et inimaginables et à un moment donné, elle me dit ce serait peut-être bien de me revoir sur une consultation de sexologie parce que je pense qu'il faut qu'on parle. Et là, je prends une consultation chez une psychologue à qui je parle de tout ça et ça me remue tellement que en fait, j'explose littéralement tout ce que je peux faire exploser dont mon couple. Du coup, on se sépare avec mon copain. On n'a jamais perdu le contact, ça c'est certain. Je pense que lui, il savait qu'il y avait des choses plus profondes et il a attendu. Et on va se remettre ensemble finalement avec mon copain au bout de 2 ans. Moi, à ce moment-là, je suis toujours en travail thérapeutique, mais je suis beaucoup plus apaisée. Aujourd'hui, tout va bien. On est toujours en couple avec mon partenaire. Ça va faire 17 ans cette année. On a une forme de, je dirais, de sexualité de l'ordre du tactile et du câlin. C'est comme ça, je dirais, aujourd'hui que on a quelque chose de très charnel entre nous. Après, moi, je considère que la sexualité est une chose qui fait partie d'un couple, mais que c'est pas l'essentiel. La complicité, le rire, c'est le ciment de notre relation. Et parce qu'on a un couple très solide, et ben on a décidé d'ouvrir notre couple, parce que moi, je me définis en tant que bisexuelle. Mais pour moi, c'était important de pouvoir repréciser cet endroit-là de qui je suis, en fait. Et donc, je voulais être sûre que ça puisse être quelque chose de possible, et je voulais que ce soit un truc qu'on ait choisi à deux.
Je m'appelle Amaury, j'ai 28 ans, je suis AED dans un collège, donc c'est surveillant. Et là, je prépare le concours pour devenir professeur des écoles cette année. Après mes études de marketing, j'ai pas réussi à trouver de travail, ce qui m'a un peu démoralisé, dans le sens où j'avais envie de faire le métier pour lequel j'avais été formé. Mais j'ai réussi à trouver un boulot de transition dans la grande distribution. Donc c'était un boulot qui était assez fatigant physiquement parce que il y a le côté où on porte beaucoup de cartons. Je travaillais sur 6 jours et c'était du 7h, 13h ou du 6h, midi tous les jours. Le travail et la vie en couple, ça matchait pas trop, on va dire. Enfin, ça lui faisait pas plaisir que je travaille dans ce travail-là, mais moi aussi j'en avais besoin pour pouvoir vivre ma vie à Paris, pour pouvoir payer mon loyer. Il y avait beaucoup de fois où j'étais fatigué, où je pouvais pas partir en week-end ou ce genre de choses. Donc ce qui a fait qu'il y a eu des dissensions dans le couple, ça a été un peu le motif de rupture. Et ça a été un peu la dégringolade. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai eu des montées d'angoisse qui sont venues en voyant des photos de mon ex sur les réseaux sociaux. Et après, oui, enfin, j'avais très peu de contacts sociaux. Je me suis un peu renfermé sur moi-même, quoi. Très peu de temps après ma rupture, il y a un client qui m'a harcelé sexuellement dans le magasin. C'était un client avec lequel, au début, j'étais gentil, parce que ça nous arrivait souvent que des personnes âgées nous racontent un peu leur vie, tout ça. Donc ça a commencé comme ça au début. Mais sauf que de plus en plus, il commençait à devenir un peu plus insistant, en me disant que j'étais le plus beau du magasin. Après, il a commencé à me proposer de me dire que lui, il avait la place chez lui, que je pouvais venir. Je faisais semblant que j'avais rien entendu. Et après, il a proposé de l'argent pour que je couche avec lui. Et il a voulu me toucher. Donc là, je lui ai dit très clairement que ça pouvait pas le faire. Et c'est vrai que moi, ça m'a mis très mal à l'aise à ce moment-là. J'avais l'impression que le sort s'acharnait un peu sur moi. En fait, je me suis beaucoup dit que je méritais ce qui m'arrivait. Et ça a encore plus empiré mes crises d'angoisse. Parce que là, c'était en allant au travail. Et là, vraiment, ça allait plus du tout. J'arrivais même plus à manger. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre qui m'a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques pour pouvoir dormir la nuit. Et il m'a demandé s'il n'y avait pas eu des événements dans mon enfance où j'aurais été violé dans mon intimité. Et ce qui m'a fait un peu réagir, mais j'en ai pas trop pris conscience. Et c'est une semaine après on en avoir parlé où j'ai commencé à faire un rêve qui a duré pas mal de temps. J'étais dans une piscine municipale. Et le rêve était assez violent parce que je me faisais violer par trois hommes. Et le rêve a été de plus en plus fréquent. Et un jour, il y a eu un peu un flash où j'ai vécu le traumatisme quand j'avais 7 ans, où mon entraîneur de piscine m'avait agressé sexuellement. C'était des caresses dans la douche. Très clairement, il a touché mon sexe en se faisant du bien lui-même. Ceci, ça a été un flash. Du coup, on en a commencé à en parler avec le psychiatre, où il m'a dit que mon corps et ma tête avaient essayé d'oublier tout ce côté-là en l'enfouissant et en faisant semblant que tout allait bien. Il fallait que j'en parle, quoi. Je m'étais posé un peu la question de savoir si j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et je me suis dit qu'il fallait aussi sauter le pas pour essayer de passer à autre chose, d'une certaine manière. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me remettre sur le site de rencontre. J'ai commencé à coucher avec une fille. La première fois, c'était très bizarre. En fait, je me suis rendu compte que toutes les caresses qu'on me faisait, je les sentais pas, que j'avais plus vraiment de plaisir. Mais je l'expliquais par le fait que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait ou je me disais, enfin, il faut se remettre un peu dans le bain, même si j'aime pas trop cette expression, quoi. J'ai redaté une autre personne. Ça a été le même schéma. Sauf que là, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus brutal. C'est comme si j'étais étranger à mon propre corps et à mon propre plaisir. Et qu'il y avait certaines zones où mon corps ressentait, mais absolument rien, quoi. J'avais l'impression d'être vraiment complètement déconnecté et je réfléchissais à beaucoup de choses dans ma tête, ce qui m'empêchait aussi de vivre un peu le moment présent, quoi. Plusieurs fois, ça m'est arrivé où, lors des préliminaires, je repensais à ce qui m'était arrivé et du coup, j'ai demandé à d'arrêter. Ce qui a fait que, de temps en temps, c'était un peu chaotique avec les personnes. La plupart ne comprenaient pas trop. Mais je pense que c'est assez difficile de le dire à quelqu'un qu'on vient de rencontrer comme ça. Et ce qui a fait que pendant un certain temps, j'ai arrêté les sites de rencontres. Et c'est qu'à partir du mois d'avril où j'ai rencontré quelqu'un. Et là, j'ai un peu osé le pas, on va dire, d'en parler. Ça s'est très bien passé, le date. On a couché ensemble le premier soir. Et très rapidement, je sais pas pourquoi, mais je me suis senti en confiance avec elle. Et du coup, je lui ai parlé de mon agression et de mon traumatisme à l'enfance. Et étonnamment, elle a été très à l'écoute. Et ça m'a libéré un peu certaines choses dans mon corps. C'est comme si j'avais eu besoin d'en parler pour pouvoir avancer moi-même sur ma sexualité. Et du coup, elle m'a demandé très simplement s'il y avait des zones dans lesquelles j'avais du mal. Et après, sur les zones dans lesquelles je ressentais rien. C'est comme si on avait un peu travaillé sur moi, mon plaisir. Moi, c'est vrai que ça a toujours été un peu un tabou où j'avais l'impression de faire mal les choses, par exemple. Donc ça m'a en fait donné confiance en moi, en mes capacités et... De plus en plus, j'ai commencé à ressentir des choses. C'était la première fois où j'ai recommencé à avoir de la jouissance. C'était comme si je reconnectais sur le mois d'avant, tout ce qui s'était passé, quoi. J'avais réussi à passer un cap. Après, moi, je voulais pas forcément me mettre en couple avec elle. Enfin, elle m'a permis beaucoup de choses, mais du coup, ça m'a empêché aussi d'être pleinement avec elle. On le savait l'un de l'autre que... On voulait avancer de certains de nos côtés. J'ai arrêté de prendre les antidépresseurs parce que j'y voyais plus trop l'intérêt. Enfin, comme j'ai changé aussi de métier dans le monde de l'enfance, qui me passionne beaucoup plus, et comme j'ai l'impression d'avoir un peu une trajectoire de carrière qui se dessine, c'est comme si ça allait mieux. Là, actuellement, je suis avec quelqu'un. C'est le tout début de la relation, mais je lui en ai parlé, justement, de tout ce qui m'était arrivé. Ça se passe très très bien. Après, je sais pas si j'ai envie de rester complètement avec elle ou pas. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et du coup, ça m'aide pas forcément à être à l'aise dans une relation.
Je m'appelle Bérangère, j'ai 38 ans, je vis à Lille et je suis documentaliste. Mes parents étaient divorcés à ma naissance, donc j'ai vécu exclusivement avec ma mère qui s'est occupée de moi. Et on m'a pas dit grand-chose de la sexualité. J'ai pas eu d'espace, en fait, pour en parler. Aucune éducation ou consentement, en tout cas ma mère, ne m'en a pas parlé explicitement. Dans mon enfance, peut-être entre 5 et 7 ans, j'ai été abusée sexuellement par un proche de ma voisine qui me gardait. Et j'ai juste des souvenirs, en fait, de peut-être un membre de sa famille qui était dans la pièce et qui faisait des remarques à mon égard sur mon physique, le fait que j'étais très très belle, etc. Quelques années plus tard, j'ai eu des flashs qui sont restés. Je n'ai que ces flashs-là, en fait, de couloirs, de mains sur des parties de mon corps et d'être très apeurée, en fait, d'être paniquée, apeurée. Et donc, voilà, je ne peux pas dire explicitement ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai vécu quelque chose. Mon entrée dans la sexualité, elle s'est faite très jeune. En fait, j'ai perdu ma virginité à 14 ans. C'était consenti, mais je pense que j'avais pas vraiment conscience de ce que ça impliquait. En fait, je pense que j'étais très dans la curiosité. J'avais l'impression que c'était plutôt mon corps, mes sensations, un peu mes hormones qui parlaient, mais que ma tête, elle avait pas foncièrement envie. Et ça a été un moment compliqué parce que ma mère a découvert et je tout de suite elle s'est dit mais tu t'es pas protégée, pourquoi tu as fait ça, alors que j'avais pris mes précautions avec mon premier partenaire. Elle a révélé ça à mon père, il y a eu une sorte de tribunal en me culpabilisant, m'infantilisant et en me forçant à aller voir une gynécologue et à faire des prises de sang pour voir si je n'étais pas enceinte et vierge. Donc ça a été très violent pour moi. Et ça, à partir de ce moment-là, je sais que pendant quelques années, je n'ai plus aucun rapport intime avec qui que ce soit, en fait. Ça m'a dégoûtée. J'ai été en couple à deux reprises. Avec mon premier compagnon, ça se passait bien. C'était une sexualité qui était épanouie et consentie. En revanche, j'ai pu y avoir des moments où j'avais l'impression d'avoir des rapports sexuels alors que je n'avais pas envie. Et ensuite, le deuxième compagnon que j'ai eu pendant 5 ans, donc il y avait une relation d'emprise, donc il y a eu des violences verbales, des violences psychologiques et des violences sexuelles. J'ai été victime de deux viols conjugaux. Le premier, ça a été une relation sexuelle non consentie dans la nuit, où je me suis réveillée avec ça. Il était en train d'embrasser et de me pénétrer. Donc j'étais très effarée, sidérée de ce qui venait de se passer. Et le deuxième viol conjugal, c'était en une soirée où on avait commencé à avoir un rapport sexuel. Il était ivre et j'ai exprimé un non et le non n'a pas été entendu. Et il a continué. Donc après avoir quitté mon compagnon, j'ai eu un rapport justement de consommation. De consommation des partenaires, de consommation de la sexualité, avec aucune envie de m'impliquer émotionnellement. Mais j'avais un besoin, je pense, de combler un vide, de me prouver que je pouvais plaire aux autres. Et donc, j'ai enchaîné un certain nombre de rapports, plusieurs partenaires dans la semaine, plusieurs partenaires le même jour que je rencontrais sur les applications de rencontres. Pour moi, c'était une vraie conquête, une vraie reprise de pouvoir. Je me sentais libre, je pouvais faire ce que je voulais avec qui je voulais, quand je voulais. Et du coup, en fait, je prenais du plaisir, mais pas vraiment, parce que la plupart des partenaires se préoccupaient très peu de mon désir à moi, en fait, et de mon plaisir. Donc c'était aussi quelque part très unilatéral, mais j'étais pas seule. J'ai jamais été sujet de ma sexualité, en fait. J'ai toujours été objet, finalement. Je pense que ça a été toujours très difficile pour moi d'exprimer ce dont j'ai envie, ce dont je n'ai pas envie. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai rencontré mon compagnon sur une application de rencontre et les choses se sont faites progressivement. Il y a vraiment une conquête de nos personnalités, une conquête de nos corps. Et c'était la première fois que j'avais une sexualité et une relation qui soit très dans le partage, dans la complicité, dans la tendresse, dans le respect des limites, dans le consentement. Mais c'est aussi à ce moment-là que les réminiscences sont revenues. J'ai commencé une thérapie en 2018 parce que j'étais en dépression. Et c'est avec ma psy que j'ai pu conscientiser l'ensemble en fait des violences sexuelles que j'avais vécues. Et je me suis rendu compte que tout était imbriqué, en fait, tout était noué. C'est comme une pelote de laine qu'on est en train de détricoter. J'ai fait un premier travail thérapeutique par la parole. Et en 2023, j'ai commencé un travail de MDR. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de levée partielle d'amnésie traumatique, où j'ai ressenti de nouveau les flashs, la sensation qu'au moment où je faisais l'amour avec mon compagnon, qu'on commençait certaines pratiques, d'avoir comme quelque chose de gluant, de collant sur mon corps, et parfois de sentir un souffle dans mon oreille, une main sur, par exemple, mes seins. Ça me faisait extrêmement peur. Je n'arrivais plus parfois à l'embrasser, ou des moments où je me finissais par être crispée, m'arrêter et pleurer, et cette difficulté de dire non, en fait. J'avais l'impression que c'était pas moi adulte, que c'était moi adolescente, que c'était moi enfant qui me retrouvait de nouveau avec quelqu'un avec moi. Ce n'était pas mon partenaire, mais quelqu'un d'autre, et qu'on me voulait du mal. En fait, il y avait une double dissociation. J'avais l'impression d'être enfermée dans moi-même, complètement paralysée. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire. Et j'avais l'impression aussi parfois d'être au-dessus de moi-même. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, bon, bah voilà, c'est la vie de couple parfois. Bah voilà, la sexualité, elle décline un peu. Il y a des moments où on a des pertes de libido, mais il y avait des tels moments où j'avais tellement la sensation de cette peur. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur, parce que je n'avais jamais eu peur en fait avant. Ma thérapeute m'a beaucoup encouragée à communiquer et à verbaliser. Et du coup, mon partenaire a été vraiment d'un soutien incroyable parce que je me suis sentie en capacité de lui dire tout ce que j'avais vécu. Et donc, on a décidé d'avoir un plan d'attaque pour continuer à avoir une sexualité qui soit épanouie et consentie à mon propre rythme. En fait, il y avait des moments où j'étais prête à lui donner du plaisir, mais j'avais pas envie qu'on me touche, en fait. C'est comme si mon corps, il était trop sensible, trop cassé, en fait. Je voulais plus qu'on me touche. Et du coup, à un moment, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit aussi. Avec mon compagnon, on a décidé, en fait, de ne pas avoir de sexualité pénétrative. Donc, ça nous a donné un nouvel espace de liberté. Et surtout, et ça, c'est quelque chose auquel je m'encourage, c'est parler. C'est de dire, voilà quel est mon état émotionnel. Aujourd'hui, en ce moment, à cet instant T, voilà ce dont j'ai envie, ce dont je n'ai pas envie. Tu peux me toucher à tel endroit, tu peux m'embrasser à tel endroit. Si je dis non, le non sera entendu et le non sera respecté. Ma sexualité, elle est plus apaisée parce que j'ai l'impression d'avoir repris le contrôle et que maintenant je me sens sujet.
I was 15, still in the valley, walking in a parking garage. First time I met a wolf in person. At first I thought it was a dog. I tried to dodge him, he was faster than I'd ever had to be. He smiled and howled in the same moment.
C'était Ce que les violences sexuelles font à l'intimité, un reportage de Pauline Verdusier réalisé par Sylvain Richard avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci à Marie, à Amaury et à Bérangère. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet. Now I bury my smile and show no interest. Now I carry myself a little different.
Shot. He assured me he was harmless. Why did I ever trust a fox? I ignored all of my teachings. How I survived, I can't believe.
let him get his claws in. Still knocks the wind right out of me. Just now.